Bonsoir à tous. Alors après tous ces aléas techniques, on y est arrivé. Merci d'être venu. Je suis ravie de ne pas vous avoir fait peur avec Henri VIII et toutes ces femmes. Donc la semaine dernière, pour les absents, j'ai les noms, je vous ai présenté donc les diverses crises conjugales d'Henri VIII. Et cette semaine, j'ai décidé de vous présenter la crise de foi, FOI, d'Henri VIII, même si ça n'en était pas vraiment une, et je vais vous l'expliquer, c'est le titre qui me semblait approprié. Et d'ailleurs, je remercie mon cher collègue de m'avoir donné l'idée, qui est assez brillante, j'avoue. Donc, j'ai décidé de présenter cet aspect de l'histoire et de l'histoire d'Angleterre, car la démarche confessionnelle d'Henri témoigne vraiment d'un phénomène de crise. En fait, je vais revenir sur quelques aspects dont j'ai parlé la semaine dernière pour bien recontextualiser, bien remettre les choses dans leur contexte. Et donc, comme je l'ai dit la semaine dernière, Henri n'a pas réellement vécu d'expérience de crise de foi ou d'expérience de conversion même, hein, puisqu'il a toujours, il est toujours resté dans son cœur et dans sa foi catholique. Mais les événements qui ont ponctué sa vie ont mené à une crise de foi nationale et internationale, tout au moins à l'échelle européenne. Donc si Henri VIII s'est séparé de Rome et du Saint-Siège, c'est pour des raisons personnelles et non pour des raisons doctrinales, j'allais dire. Et c'est ce que j'avais abordé la dernière fois. Quand on lit, maintenant je pense que à force de l'avoir répété, vous le saurez, quand on lit qu'Henri VIII était le premier roi protestant, c'est faux, archi faux. Il n'a jamais été protestant, il s'est séparé de Rome pour des raisons, pour des questions personnelles, parce qu'il souhaitait divorcer de sa première femme, Catherine d'Aragon, qui était trop vieille selon lui, enfin qui était pour l'époque trop vieille pour lui offrir un héritier mâle, l'héritier mâle tant attendu par Henri. Et c'est bien là que la crise personnelle est devenue crise nationale et crise internationale, puisqu'elle a changé le futur d'une nation et qu'elle a donné à terme l'église anglicane. Donc pour bien comprendre cette crise, je voudrais revenir tout d'abord sur les événements et leur contexte. C'est pour ça que j'aborderai aujourd'hui les événements, l'évolution de l'église en Angleterre de façon chronologique. Il me semblait que c'était plus clair. Donc je présenterai d'abord les éléments tels qu'ils sont survenus, et ensuite je présenterai les grandes idées de l'Église d'Angleterre telle qu'elle a été fondée par Henri, et j'aborderai quelques points sur les réactions que ces changements ont suscité en Angleterre. Donc que les personnes qui étaient déjà présentes la semaine dernière me pardonnent, je vais répéter quelques éléments. Donc Henri VII, le père d'Henri VIII, a deux fils, Arthur l'aîné et Henri le cadet. Arthur meurt en 1502 et c'est Henri qui se destine à monter sur le trône en 1509 lorsqu'Henri VII meurt. Lorsqu'Henri VII meurt, donc Henri Tudor, qui devient Henri VIII, est couronné, et Henri VII avait stipulé dans son testament qu'il souhaitait qu'Henri épouse la veuve de son fils Arthur, à savoir Catherine d'Aragon. Et puisque, je vous l'avais dit, Henri VII était assez près de ses sous, il était assez radin, il ne souhaitait pas rembourser la dot de Catherine, donc il a insisté pour que Catherine reste à la cour d'Angleterre. Les deux familles étaient ravis de cet arrangement, parce qu'ils souhaitaient les deux familles souhaitaient cette union afin de préserver les alliances très commodes pour les deux pays, donc tout allait bien. Donc, à la mort d'Henri VII, il est prévu qu'Henri Tudor, futur Henri VIII, épouse très rapidement Catherine d'Aragon. Alors, Catherine, pour la resituer, elle est espagnole, c'est une infante espagnole, elle est catholique, fervente catholique, c'est la tante de Charles Quint, Charles de Habsbourg, empereur germanique, archiduc d'Autriche et prince des Espagnes, et il est considéré en son temps comme le monarque chrétien le plus puissant. Et il est catholique, donc très proche du pape, de Rome, du Saint-Siège. Donc les alliances à cette époque-là, tout au moins à l'époque du mariage entre Catherine d'Aragon et Henri VIII, sont assez fortes entre le Saint-Siège et Charles Quint. Pour qu'Henri VIII puisse épouser la veuve de son frère et que le mariage respecte les canons de l'Église, et c'est là qu'on va rentrer dans les détails assez techniques, Henri VII doit obtenir pour son fils une une dispense du pape, qui est à l'époque Jules II, et cette dispense annule toute relation qu'Arthur aurait pu entretenir, enfin, relation charnelle qu'Arthur aurait pu avoir avec Catherine. Donc, on va partir du postulat que le droit canonique de l'Église catholique romaine interdit deux choses, la consanguinité et l'inceste. Pour évaluer le degré de consanguinité, on se base sur ce qu'on appelle à l'époque l'affinité, c'est-à-dire le rapport qu'il y a entre l'un des conjoints par mariage et les parents de l'autre conjoint. C'est tout simplement ce qu'on appelle de nos jours la parenté par alliance. Voilà. Et l'Église considère qu'en se mariant avec la veuve de son frère, eh bien Henri VIII rompt cette affinité. Alors, en revanche, s'il y a non-consommation de ce mariage, hein, ce qui arrangerait bien tout le monde, le droit canon est respecté, car il y a présence d'affinité. Donc, il n'y a aucun problème, il peut se remarier, il n'y a aucun souci. Et si les conseillers d'Henri VIII arrivent à prouver que le premier mariage de Catherine n'a pas été consommé, ou faute de mieux, s'ils arrivent à obtenir une dispense du constat de virginité par le pape, alors l'union entre Henri et sa deuxième femme est autorisée. Vous vous souvenez, je vous ai parlé d'Admolène et des aléas qui ont été tous les aléas qui se sont passés par rapport au deuxième mariage. Bon, on revient un petit peu en arrière. Dans les faits, Arthur avait épousé Catherine d'Aragon le 14 novembre 1501. Elle est la fille, je l'ai dit, des souverains espagnols, Ferdinand d'Aragon pour son père et Isabelle de Castille, sa mère. Et Arthur Tudor était de constitution fragile et il meurt très jeune, il meurt à l'âge de 15 ans de ce qu'on appelait à l'époque la suette anglaise. Alors la suette anglaise, c'est une maladie qui fait partie de l'histoire de la médecine, je suis un médecin, mais c'est une maladie qui a disparu et dont les symptômes étaient présence d'une forte fièvre et d'une sudation intense, et on en mourait très très rapidement. C'est une maladie qui n'existe plus, on l'appelle aussi la suette, mais une version de la suette existait en Angleterre, c'est pour ça qu'on l'appelle la suette anglaise. Bref, ce jeune homme meurt à l'âge de 15 ans, et Catherine est veuve. On demande à Catherine ce qui s'est passé entre les deux. Catherine dit à son entourage que le mariage n'a pas été consommé, et ce qui est d'ailleurs confirmé par la chaperonne de Catherine. Il faut dire qu'à l'époque, ils étaient très très jeunes, enfin toute proportion gardée, hein, puisqu'on se mariait jeunes, mais Arthur et Catherine étaient jeunes à l'époque du mariage. Arthur avait 15 ans et Catherine en avait 17, donc elle est veuve à 17 ans. Donc, il meurt le 2 avril 1502, donc 6 mois après leur mariage, et le pape accorde quand même, il a fallu un petit peu de temps pour que la dispense papale soit accordée, la dispense est accordée à Henri VII en 1504. Donc les deux familles, c'est ce que je disais tout à l'heure, heureuses de conserver les liens forts entre les deux pays, acceptent cette dispense avec grand plaisir, et Henri et Catherine peuvent se marier à la mort d'Henri VII, selon les désirs de ce dernier. Le pape qui était alors en place en 1509, pardon, le pape qui était alors en place, Jules II, était un diplomate féroce. Il était d'ailleurs assez détesté, il était détesté des Français, il a été vivement critiqué par Erasme, qui le trouvait très conservateur, et qui avait, bon, Erasme, on l'avait vu un petit peu la semaine dernière, est un des pères de l'humanisme, proche des idées réformées. D'ailleurs, Luther, qui était allé rendre visite au Saint-Siège à l'époque, était reparti choqué de Rome, choqué par les pratiques du clergé, et notamment par la pratique du commerce, de la vente des indulgences. C'est-à-dire, les indulgences, c'était ce que le Saint-Siège vendait, enfin plutôt, les chrétiens achetaient la rémission totale ou partielle de leurs péchés et du temps passé au purgatoire en achetant des indulgences. Alors, on leur signait un papier, hein, comme un reçu, hein, il en existe encore. Vous achetez, d'ailleurs on peut toujours obtenir des indulgences. Si vous allez, vous obtenez un reçu, vous avez acheté un temps donné, une réduction de temps donné au purgatoire selon ce que vous donnez à l'Église. Et à l'époque, ce commerce des indulgences permettait de financer la construction de la basilique Saint-Pierre. Donc, Luther avait été très choqué par ces pratiques, le pape est très critiqué par ailleurs, hein, on sait que les idées de la réforme arrivent peu à peu et que ce genre de pratique était très, très critiqué. Alors évidemment, on imagine toutes les dérives liées à ce commerce qui était fort lucratif, et en cela on peut dire que le pontificat de Jules II est déjà un des déclencheurs de la réforme. Jules II était évidemment en contradiction avec l'humanisme et évidemment la réforme qui s'en suivra. Mais on reste en 1502 et il est encore trop tôt pour parler de réforme en Angleterre. Donc, en ce qui concerne Henri VII et le futur roi Henri VIII, ils obtiennent la dispense papale sans problème. Une fois la dispense en poche, on célèbre le mariage d'Henri VIII et de Catherine d'Aragon et tout le monde est content, comme je l'ai déjà dit. Henri VIII et Catherine se marient le 11 juin 1509, 9 semaines après l'accession au trône par Henri VIII, donc assez rapidement. Et ils sont tous les deux couronnés à l'abbaye de Westminster le 24 juin 1509, donc 13 jours après leur mariage. C'est un couple uni, vraisemblablement amoureux. Ils sont très jeunes. Catherine se trouve très rapidement enceinte et elle accouche de nombreuses fois d'enfants mort-nés. Elle fait de multiples fausses couches. Et parmi tous ses enfants, une seule fille semble survivre. Hein, on en a parlé la semaine dernière, Marie, future Marie Tudor. Marie première d'Angleterre, qui sera surnommée pendant son règne Marie la Sanglante, Marie la Sanguinaire, puisqu'elle est toujours restée attachée à la religion de sa mère, c'est-à-dire le catholicisme. Malgré tout, alors il a une fille, c'est très bien, mais malgré tout, Henri commence à s'impatienter, d'autant qu'il ne voit aucun enfant mâle survivre. Hein, et dès 1514, il semblerait qu'il envisage peu à peu de répudier Catherine pour pouvoir trouver une autre femme plus à même de lui offrir cet héritier mâle. Et il se sait fertile, hein, puisqu'en 1519, il a un fils avec sa maîtresse Elizabeth Blount, un fils à qui il donne le nom révélateur de Henry Fitzroy, Henri le fils du roi. Donc il sait qu'il peut avoir des garçons, puisqu'à l'époque on voyait les choses en ces termes, hein, on ne rentrait pas dans les détails médicaux. Hein. Je sais que je peux avoir un fils, donc j'en aurai un autre avec une autre femme. En 1525, il donne d'ailleurs le titre de duc de Richmond, donc qui est un titre très élevé puisque on est prince. Le titre de duc arrive juste après celui de prince, donc c'est un titre de haute noblesse. Il donne à Henry Fitzroy le titre de duc de Richmond alors qu'il s'agit d'un enfant illégitime, un enfant né hors mariage, et ça montre bien l'importance hein, qu'il donnait au fait d'avoir un garçon. Même si la loi salique n'existait pas à l'époque, hein, une femme pouvait monter sur le trône, et c'est ce qui se passera après, il estime que sa fille Marie est bien mal armée pour monter sur le trône, et de toute façon, si on prend en considération la mortalité infantile à l'époque, il valait mieux avoir plusieurs enfants pour assurer quand même ses arrières. Donc, vous l'aurez compris, il veut absolument un fils. Et à partir de 1521, il va prendre pour maîtresse Marie Boleyn, je l'ai mentionné la semaine dernière, la sœur d'Anne Boleyn, sa future deuxième femme, dont il a eu également une fille illégitime, mais toujours pas de fils légitime. Donc, il va falloir agir, et il le sait, il ne va pas pouvoir agir seul. Hein, Henri va devoir s'armer, on ne peut pas lutter contre les règles du droit canon hein, comme ça aussi facilement. Et c'est là qu'on va rentrer dans les détails un petit peu plus techniques hein, de la crise de foi, puisque Henri va se tourner vers son Lord Chancellor, le Lord Chancelier, hein, l'équivalent de son Premier ministre, qui s'appelait Thomas Wolsey. Alors j'en ai un portrait. Voilà. Donc vous voyez qu'il porte l'habit rouge, hein, il était cardinal. Il est cardinal de son état, il est en place depuis 1515. C'est un cardinal très très influent auprès des élites sociales et religieuses. Il vivait quand même une vie très confortable. Hein. Je vous ai parlé la semaine dernière du palais de Hampton Court. Il était locataire de ce manoir, c'était un manoir à l'époque, avant de devenir palais royal, donc il en était locataire. Si vous avez l'occasion de visiter le lieu, vous verrez que c'est quand même assez spacieux. C'est plutôt agréable comme demeure. Donc voilà, donc c'est quelqu'un qui a mené une vie assez confortable. Il était très influent auprès de ses élites sociales, religieuses, et Henri a une confiance aveugle en lui, et il lui demande son soutien dans cette affaire, hein, pour pouvoir obtenir l'annulation de son mariage avec Catherine d'Aragon. Et il demande également le soutien de l'archevêque de Canterbury, Thomas Cranmer, qui est ici, oups, non, pardon, oh, zut, voilà, qui est ici et qui est l'archevêque de Canterbury, qui est la plus haute figure religieuse du pays. Alors, ça, je vais revenir un petit peu dessus par rapport au contexte religieux, parce que le contexte religieux est le suivant. Jusqu'aux années 1520, les relations entre la papauté et Henri VIII sont excellentes. Il n'y a jamais eu aucun conflit, aucun problème. Mais elles vont se dégrader, forcément, avec cette histoire d'annulation de mariage, peu à peu, vers la fin de la décennie. En fait, elles se dégradent très très rapidement, puisqu'Henri est très pressé. Il veut absolument que son mariage soit annulé. Au niveau européen, tout commence en Allemagne, où Martin Luther aurait placardé, alors on ne sait pas si ça fait partie de la légende, mais on sait que de toute façon le texte existe, il aurait placardé un document à la porte de son église le 31 octobre 1517, et il publie ce document sous le titre de « Dispute sur la puissance des indulgences » pour critiquer le commerce des indulgences, dont j'ai parlé tout à l'heure, et ce document est plus connu sous le titre de 95 thèses. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là que les idées de la réforme, de la critique vive, de la papauté, de l'Église catholique romaine affluent et se diffusent en Europe. Et c'est vraiment cette publication hein, qui déclenche véritablement la réforme en Allemagne et en Europe. Alors, évidemment, hein, les idées circulent depuis l'imprimerie, mais elles ne circulent pas aussi rapidement que maintenant, bien évidemment. Et ces idées nouvelles arrivent petit à petit en Angleterre. On n'y est pas encore, on est qu'en 1517. Et on ne peut pas dire que la réforme touche tout de suite l'Angleterre. Mais on commence à en entendre parler. Et Henri, qui est fortement attiré par la théologie, hein, c'est un homme qui s'intéresse à l'Église et au fonctionnement de l'Église, hein, c'est un homme pieux, souhaite se prémunir et montrer sa fidélité au pape, et il rédige, alors pas tout seul, hein, il a obtenu de l'aide, un texte, je vous épargnerai ma prononciation latine, donc je vous donnerai le nom de la traduction, la défense des sept sacrements en 1521, où il montre qu'il soutient les sacrements traditionnels ainsi que la suprématie du pape. Donc il préfère clarifier les choses et montrer qu'au pape qu'il lui reste fidèle et qu'il lui restera fidèle. Et le pape à l'époque, qui est Léon X, l'en remercie en lui donnant le titre de défenseur de la foi. Fidei defensor. Et je voudrais vous montrer, voilà, vous montrer ceci, puisque c'est un titre que les monarques anglais continuent à porter. Alors si vous voyez, par exemple là c'est une pièce de, je crois, deux livres où figure Élisabeth II, vous voyez ici voilà, donc son nom, Élisabeth, hein, Dei Gratia Reg Fide, donc Dei Gratia Regina Fidei Defensor, donc par la grâce de Dieu, reine et fidèle défenseur de la foi. Donc elle porte encore et continue, tous les monarques continuent à porter ce titre, et vous le trouverez toujours sur les pièces. Une autre par exemple est ici, vous voyez, DG Reg Fide, alors avec des abréviations, mais vous le verrez sur toutes les pièces. Donc c'est un titre qui continue à porter, bien qu'il y ait eu entre temps la séparation entre l'église anglicane, enfin l'église d'Angleterre et l'église catholique romaine. Donc on laisse Élisabeth II de côté, on revient en 1527, toujours au cœur de cette crise, Henri s'entretient donc avec Wolsey, son cardinal, et avec Catherine pour leur faire part de ses doutes, hein, puisque bon, il était honnête, il voulait absolument savoir ce qui s'était passé, donc il leur expose ses doutes quant à la validité de son mariage entre Catherine et lui. La reine a déjà 42 ans, je l'ai dit, elle a peu de chances de produire un autre héritier mâle, pour parler de façon technique, et le contexte diplomatique semble éloigner l'Espagne de l'Angleterre au profit de la France, donc Henri se dit qu'une désunion entre Catherine et lui ne froisserait pas Charles Quint, et que finalement les choses se passeraient plutôt de façon calme et sans heurts. Évidemment, nous on connaît la suite, donc on sait que les choses ne se sont pas passées aussi facilement. C'est là qu'Anne Boleyn entre en scène. Alors on dit souvent qu'à cause d'Anne Boleyn, il a divorcé de Catherine d'Aragon. C'est pas tout à fait ça en fait. Anne Boleyn, c'était vraiment l'agent précipitant. C'est elle qui a permis en fait de prendre des décisions de façon plus ou moins rapide. Hein, elle n'est pas en soi la cause directe du divorce. Mais elle est arrivée là, à ce moment-là, elle entre en scène. Et au début des années 1520, comme je vous l'ai dit, il avait déjà eu une relation avec la sœur d'Anne Boleyn, donc on savait déjà qu'il était plutôt infidèle. Alors Anne arrive à la fin de l'année 1520, en 1521, on sait qu'elle a séjourné à la cour de France jusqu'en 1521, et qu'elle arrive à la cour d'Angleterre vraisemblablement entre 1522. C'est une femme qui parle français, qui a vécu à la cour de France, qui ramène avec elle des grandes cultures de la cour de France. Et c'est vraiment, il a mis du temps hein, avant de courtiser Anne, et puis c'est vraiment, ce n'est qu'à partir de 1525-26 qu'Henri la remarque, hein, puisqu'il y avait, comme je vous l'ai dit, beaucoup de monde à la cour, même si au final les gens qui gravitaient autour de lui étaient plus ou moins toujours les mêmes familles. Bon, il la rencontre vraisemblablement à cette période-là. Et au contraire de sa sœur, Marie, Anne refuse catégoriquement les avances du roi, et elle refuse de devenir une maîtresse parmi tant d'autres. Alors elle n'a qu'un but, elle veut devenir sa femme légitime et évidemment être couronnée reine. Alors elle est poussée en cela par sa famille, son père, hein, la famille Boleyn était une famille qui était avide de pouvoir. Son père était à la cour, son frère Georges était à la cour. Vous vous souvenez que quand elle a été accusée de trahison, elle a également été accusée d'inceste avec son frère Georges, ce qui était absolument cruel pour l'époque, d'autant que bon, on pense que c'est faux. Donc Anne arrive à la cour et le temps passe, Henri se rend compte, il se rend à l'évidence, Anne ne va pas céder, elle ne cédera pas, il n'a pas le choix, s'il veut un fils légitime, il va bien falloir qu'il obtienne officiellement auprès du pape l'annulation de son mariage entre lui et Catherine d'Aragon. Et Anne lui aurait promis un fils. Alors ça fait peut-être un peu partie de la légende, mais bon, les choses, beaucoup de choses contribuent à sa prise de décision. Et donc 1527, Henri décide d'épouser Anne et il décide d'entamer officiellement cette procédure d'annulation de son premier mariage. Et même si Henri et Léon X sont d'accord sur les questions de doctrine, Henri ne remet pas en cause hein, la doctrine, c'est là qu'on commence à observer des tensions entre les deux hommes à cause de cette demande d'annulation. Et je précise que Henri ne demande pas le divorce auprès du pape, parce que évidemment, cela aurait forcément mené à une excommunication. Lui, ce qu'il veut simplement, c'est une annulation. Évidemment, il ne tient pas à être excommunié. Alors, l'argumentation du roi, elle repose sur l'invalidité présumée de la dispense papale que son père avait obtenue en 1502. Et en 1504 auprès de Jules II, annulation qui lui avait permis d'épouser Catherine d'Aragon. Alors évidemment il marche sur des œufs, mais lui il estime qu'il agit en toute bonne foi puisque dans sa tête les choses sont claires, le mariage entre sa sœur et Arthur n'a pas été consommé, par conséquent il a le droit à cette annulation. Et c'est là qu'on commence à entrer dans le vif du sujet de ce qu'on a appelé la grande affaire du roi, l'affaire du divorce. Et Henri, pour valider son argument, va prendre exemple sur d'autres demandes d'annulation de mariage qui ont déjà été formulées et obtenues auprès de papes successifs, comme celui de Jeanne de France et de Louis XII, par exemple, qui avait fait casser son mariage une fois monté le trône en 1499. Donc, Henri se dit que les choses vont se passer très très simplement, qu'il va obtenir son annulation sans problème. Mais il ne se doute pas des retombées religieuses et diplomatiques qui vont s'en suivre. Alors, retombées religieuses, la première, c'est qu'en discutant la dispense accordée en 1504, Henri va remettre en cause la décision du pape. Et c'est une attaque directe contre Rome. D'abord, il va dénoncer les irrégularités techniques, et à un deuxième niveau, il va contester le pouvoir de Rome d'accorder des dispenses. Donc il prend déjà des latitudes. Et il fait valoir, pour le coup, la loi des hommes aux dépens des décrets divins, c'est-à-dire que sa décision à lui va aller à l'encontre de ce que le pape, donc Dieu sur terre, enfin représentant de Dieu sur terre, a décrété. Donc, pour terminer, il avoue une volonté de limiter l'autorité papale. Donc, les choses commencent à se gâter. Il remet en cause les décisions du pape. Les choses commencent à se gâter. Donc, il y a également, puisque le pape était quand même à la tête du Saint-Siège, des retombées diplomatiques. Henri VIII s'apprête à se mettre à dos Charles Quint, puisque Charles Quint était l'oncle de Catherine d'Aragon, donc ça commence mal. On se doute que Charles Quint va nécessairement prendre la défense de sa tante. Et Henri, en se mettant à dos Charles Quint, va se mettre à dos les monarques catholiques, fidèles à Charles Quint et fidèles au pape. Donc, vous voyez, ça fait beaucoup de choses contre lui. Mais qu'à cela ne tienne, Henri est convaincu. Il est convaincu de son bon droit, hein, il y croit très honnêtement, il va poursuivre sa demande et sa démarche. Et c'est là qu'il va se reposer, alors non sans aide, hein, il n'a pas trouvé ça tout seul, hein, il se fait entourer et aider par de nombreux théologiens et hommes d'église. Il va reposer sa demande sur deux textes de l'Ancien Testament. Alors j'espère que vous avez révisé votre Ancien Testament. Si c'est pas le cas, ne vous inquiétez pas. Donc il se repose sur un texte du Lévitique qui semble expliquer la stérilité de Catherine. Alors stérilité, elle n'est pas stérile puisqu'elle a eu Marie, mais elle n'est pas à même de lui offrir un fils. Alors, dans la partie dédiée au châtiment, le Lévitique dit, voilà, « Tu ne découvriras pas la nudité de la femme de ton frère, car c'est la nudité même de ton frère, ce qui constituerait l'inceste. Hein. » Puis, plus loin, le Lévitique nous dit, « L'homme qui prend pour épouse la femme de son frère, c'est une souillure. Il a découvert la nudité de son frère, ils mourront sans enfant. » Alors là, il commence vraiment à s'inquiéter. Évidemment, me direz-vous, Henri et Catherine avaient eu Marie, mais Henri et ses conseillers interprètent évidemment à leur sauce. Ils interprètent le texte et ils offrent une lecture plutôt personnelle, puisque le passage « ils mourront sans enfant » devient « ils mourront sans fils » ou « sans héritier mâle ». Pas mal, hein. Ce qui à l'époque finalement n'était pas si choquant parce que pour un souverain la signification d'enfant était généralement comprise par fils. Alors, même en Angleterre, on ne parle pas de loi salique, hein, donc finalement c'est pour l'époque, si on remet les choses dans leur contexte, ils n'ont pas autant dévié le texte que ça. Donc c'est comme ça qu'Henri va justifier la punition divine. Il n'a pas eu de fils avec Catherine, il doit changer de femme. Et lui-même est puni en tant qu'homme, en tant que monarque, mais toute l'Angleterre est punie puisque il n'a pas eu d'enfant, et il est puni à cause du pape qui n'avait pas respecté la loi. Vous voyez ? Pour ça, il faut suivre un petit peu. C'est assez. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment hein, on utilise le texte. Alors, vous vous doutez bien qu'il y a une forte réaction de la part des proches de Catherine, qui n'ont pas laissé les choses se pourrir de la sorte. Ils prennent la défense de la reine, ils mettent en avant, eux, un argument toujours tiré de l'Ancien Testament, mais du Deutéronome, qui dit voilà. Si des frères demeurent ensemble et que l'un d'eux vienne à mourir sans enfant, la femme du défunt ne se mariera pas au dehors avec un homme d'une famille étrangère. Son lévir, c'est-à-dire son beau-frère, viendra à elle, il exercera son lévirat en la prenant pour épouse, et le premier-né qu'elle enfantera relèvera le nom de son père défunt, ainsi son nom ne sera pas effacé d'Israël. Voilà, donc elle, de son point de vue, du point de vue des fidèles de Catherine, elle devait épouser Henri VIII puisque son mari était défunt. Donc évidemment les deux camps s'affrontent. On réunit d'innombrables théologiens des deux côtés, ça dure assez longtemps, mais finalement il semblerait que les théologiens penchent plutôt en faveur de Catherine. Alors ça n'arrange pas les affaires d'Henri. Et pour sortir de l'impasse, puisque là il commence à vraiment se retrouver dans l'impasse, Henri doit prendre des décisions, et la première est de convoquer son premier ministre, Wolsey, hein, vous vous souvenez de Wolsey, le cardinal, car Wolsey porte le titre de légat à la terre, c'est-à-dire le envoyé avec une mission. Il représente, c'est un représentant personnel du pape. Donc puisqu'il représente le pape, il va pouvoir émettre des idées fidèle à celle du pape. Donc Wolsey use de ce titre pour convoquer un tribunal secret, il ne fallait pas trop le dire au pape, hein, un tribunal secret qui sera chargé d'établir l'illégalité du mariage. Alors, Wolsey y dénonce la décision du pape Jules II, qui avait annulé le mariage entre Arthur et Catherine, et suite à la décision de ce tribunal secret, Henri pourra théoriquement épouser qui bon lui semble. Or, évidemment, les choses ne se passent pas aussi facilement. D'abord, Catherine découvre la manigance. Elle fait appel à Rome, bien sûr, et à son neveu Charles Quint, qui, pas de chance pour Henri, est désormais allié avec la France. Donc, l'affaire est révélée au grand jour, hein, c'est le Paris Match de l'époque. Et on est toujours en 1527, et dans le cadre de conflits pour la suprématie en Europe, les troupes de Charles Quint ont mis à sac le Saint-Siège, ce qu'on appelait le sac de Rome. Et le sac de la ville éternelle place le pape sous la coupe de Charles Quint, ce qui fait qu'en plus on a des tensions entre Charles Quint et le pape. Et au lieu d'arranger les affaires d'Henri, finalement, ce sera le contraire, puisque Clément VII, le pape, a peur qu'en acceptant l'annulation du mariage d'Henri, les choses s'empirent et que Charles Quint se retourne contre lui. Donc, de son côté, le cardinal Wolsey se heurte aux conservateurs, parce que, je l'ai dit, hein, il avait un style très personnel, Wolsey, il était, comme beaucoup de personnes à la cour, aimé et détesté. Wolsey avait beaucoup d'ennemis, puisqu'il avait énormément de puissance et énormément de poids auprès d'Henri VIII. Donc il va se heurter aux conservateurs de la cour, et ses ennemis vont en profiter, et vont profiter de la situation pour affaiblir son pouvoir au sein du gouvernement. Hein, il était l'équivalent, si vous voulez, du premier ministre de l'époque. Et Wolsey va tomber peu à peu en disgrâce, parce qu'il a été accusé d'avoir utilisé son titre de légat à la terre en infraction au statut de prémunir. Alors le statut de prémunir interdit en fait toute autorité étrangère d'exercer en Angleterre. Lui, en tant que représentant du pape, avec ce statut, avec le statut de légat à la terre, exercer une autorité étrangère. Et on évoque l'argument en lui disant non, vous n'avez pas le droit d'exercer toute une autorité en Angleterre puisque vous représentez une autorité étrangère. Donc, à cette époque-là, le roi s'essouffle, il commence à en avoir sérieusement assez et il voit que Wolsey est incapable de régler ses affaires et d'obtenir son annulation. Il arrête de le défendre, il arrête de soutenir Wolsey. Wolsey, au sujet duquel de nombreuses biographies en fait ont été écrites dans les pays anglophones, parce que c'est vraiment un personnage historique très 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 puissant, va connaître la chute politique, la chute personnelle, et il va mourir en novembre 1530. Finalement, j'allais dire par chance, il va mourir avant son procès, puisque de toute façon le procès l'aurait accusé de trahison. Hein. Donc il va mourir en route pour un procès. qui avait été manigancé par ses ennemis, il faut bien le dire. Donc il va mourir en novembre 1530 et lui succède sur le poste de Lord Chancelier Thomas More, qui est... Non, c'est pas lui. Voilà. Thomas More, dont je reparlerai plus tard, mais que vous connaissez certainement. Donc, ainsi s'achève la première phase de ce qu'on a appelé la grande affaire du roi, l'affaire du divorce, qui va donc se terminer à cette période, à une période à laquelle il est encore impossible de régler le problème par des voies légales et ou diplomatiques. Hein. On est toujours dans l'impasse, Henri n'arrive pas à régler cette question d'annulation du divorce. Je vous parlais de la famille Boleyn tout à l'heure. Et la famille Boleyn, hein, évidemment, sait l'attirance du roi pour Anne et est pressée de s'assurer une place de choix à la cour. Alors, la famille va encourager le roi à se passer de Rome, bien évidemment, puisqu'ils veulent placer la jeune Anne, mais Henri hésite encore. Hein. Il n'arrive pas à envisager de choc et de séparation avec Rome. Et entre 1529 et 1532, pendant plus de 3 ans, Henri ne semble toujours pas avoir de politique clairement définie. Donc on est dans une période de flou, hein, où les choses n'avancent pas vraiment, ne reculent pas vraiment. Malgré cela, hein, quand même, il y a toujours des mouvements à la cour et on a des hommes nouveaux qui apparaissent à la cour. Alors Thomas Cranmer, que je vous ai montré tout à l'heure, voilà. Hein. Qui était ancien secrétaire de Wolsey, qui est mort en novembre 1530, et entre au service d'Henri à la cour, et lui, Cranmer, était proche, on le sait, des idées réformatrices, hein, il était quand même en faveur de la réforme, et entre en scène également Cromwell, Thomas Cromwell, à ne pas confondre avec celui de la République de Cromwell qui arrivera au siècle une centaine d'années plus tard. Donc Thomas Cromwell qui était... je vous ai dit une bêtise. Cromwell était l'ancien secrétaire de Wolsey. Hein, Cranmer, lui, était homme d'église. Donc les deux, Cranmer et Cromwell, poussent Henri à rompre avec Rome et Henri est soutenu dans sa démarche par... de nombreux intellectuels, et notamment les deux universités, Oxford et Cambridge, hein, où il y avait quand même un bouillonnement culturel, un bouillonnement intellectuel. Et il est également soutenu dans sa démarche par des universités italiennes et françaises. En tout, on en compte 8 hein, sur le continent. Donc c'est quand même pas mal. Donc les choses commencent à avancer. On encourage peu à peu Henri à mener sa barque un petit peu tout seul. Et pour convaincre Henri de rompre avec Rome, Cranmer va recueillir pour lui différents textes, des preuves juridiques, historiques, des preuves théologiques, qui vont l'encourager dans ce sens. Donc il travaille énormément sur ce dossier, j'allais dire. C'est vraiment un grand travail pour lui. Et il insiste, Cranmer insiste sur des anciennes coutumes, des usages, qui interdisent les Anglais de comparaître devant une juridiction étrangère. Voilà, donc c'est son argument. Il va dire que selon ses anciennes coutumes, tout cela est interdit. Et selon la formule, le roi est, je cite, le roi est empereur en son royaume. Le père d'Anne Boleyn, qui est également, hein, qui fait partie de l'entourage proche d'Henri, donne son avis. Hein, il est duc, hein, donc c'est quand même quelqu'un qui a une certaine puissance. Et il ajoute, le roi est pape et pape. Absolu en son royaume et n'a pas de supérieur sur terre. Donc lui, il va carrément plus loin en disant que voilà, hein, le pape en gros n'existe pas, hein, le roi est à la tête de tout. Et pour tous ces gens, tout cela, ce sont des. Tout ce que je viens de dire, hein, ces anciennes coutumes, en fait, sont des usages séculaires, et puis il suffit à rejeter l'appel de Catherine. On n'a pas besoin d'aller chercher plus loin, hein. Ce sont des usages, on n'a pas besoin de justifier au-delà de ça. Et on va essayer d'intimider le clergé anglais pour le fragiliser et provoquer l'acceptation du pape. Hein. En fragilisant le clergé, on se dit que le pape va bien réagir à un moment ou à un autre. Mais rien n'y fait. L'Église d'Angleterre, parce qu'il deviendra l'Église d'Angleterre plus tard, hein, l'Angleterre doit régler seule sa question d'annulation. Alors, L'arme est toute trouvée. On va utiliser le statut de prémunir qui interdit toute autorité étrangère d'agir dans le pays pour impressionner ceux qui ne seraient pas convaincus. Donc fin 1530, on va réunir 15 ecclésiastiques, dont 8 évêques, tous partisans de Catherine, et on va les accuser, et on va les inculper d'avoir enfreint cette loi, puisqu'ils auront suivi, la loi imposée par un pays étranger, une autorité étrangère. Donc les charges sont absurdes, on va les accuser d'avoir accepté la légation de Wolsey, donc le fait qu'il représente le pape en Angleterre, ce que tout le monde avait accepté et le roi en premier pendant plus de 10 ans, mais il fallait bien trouver un argument, on va les accuser de ça. Malgré tout, la procédure, elle va pas à son terme, mais cela montre bien quand même l'acharnement. On essaie de contourner les textes, de les utiliser, de les manipuler. Il y a quand même un acharnement du roi et de ses conseillers qui sont avides de pouvoir pour obtenir cette séparation et donner à Henri tout le pouvoir qu'il désire. Alors, Henri va quand même se mettre en avant et va réclamer un titre, celui de, je cite, « protecteur et seul chef suprême de l'Église anglaise ». Les instances religieuses anglaises lui accordent le pouvoir transmis à Saint-Pierre et le rôle des prêtres est sauvegardé. Lui, il devient chef de l'Église. Évidemment, le pape n'est toujours pas d'accord avec ça. Il lui interdit tout de même et toujours de se remarier sous peine d'excommunication. Donc là, il va plus loin. Alors Henri, est toujours un petit peu réfractaire. Mais rien n'est encore irrémédiable. Dans la relation entre le pape et Henri, mais la pente est de plus en plus glissante. Et malgré tout, Henri est déjà dans cet engrenage, il ne veut pas revenir en arrière et il va de plus en plus loin dans les défis lancés au pape. En 1532, on s'attaque à ce qu'on appelle les annates. Alors les annates, c'était un impôt perçu par le pape sur les bénéfices ecclésiastiques. En fait, Le Saint-Siège y était quand même très attaché, puisque ça signifiait une rentrée d'argent non négligeable. Il s'agissait de recettes pontificales procurées par toute nomination d'évêque. Donc à chaque fois qu'un évêque était nommé, le Saint-Siège récupérait de l'argent. Et cette loi, elle vise à réduire l'argent qui est encaissé par le Saint-Siège. Alors évidemment, il y a un chantage très clair, puisque si le pape ne prononce pas le divorce, on va promulguer la loi, et le Saint-Siège ne recevra plus cet argent. Donc là, on joue toujours, on essaie toujours d'intimider son ennemi. Et en août 1532, un changement inattendu a lieu. Le vieil archevêque de Canterbury, qui était hostile au divorce, meurt, et c'est Thomas Cranmer qui devient un candidat idéal pour Henri, puisque lui, il est en faveur du divorce. C'est un homme d'église, et devient candidat idéal. Et d'ailleurs, ce qui est très curieux, puisque la nomination d'évêques et d'archevêques est tout de même toujours à l'époque décidée par le Saint-Siège. Et ce qui est très curieux, c'est que le pape envoie sans problème les bulles papales qui sont nécessaires à sa consécration, tout en sachant, je ne suis pas sûre que le pape le savait, mais il était, tout au moins, on le savait dans l'entourage d'Henri, on savait que Cranmer était proche des idées réformées. Mais le pape envoie quand même ses bulles et Cranmer est consacré archevêque de Canterbury à la mort de Warham. Donc, évidemment, Cranmer ayant des penchants luthériens, les choses vont quand même un petit peu changer. L'archevêque de Canterbury est quand même la plus haute instance religieuse dans le pays. Et toutes les audaces, j'allais dire, sont alors possibles. Et Anne Boleyn, une fois de plus, les choses arrivent telles quelles. Anne Boleyn se trouve enceinte en décembre 1532. Et là, le roi l'épouse secrètement, le 25 janvier. Devinez qui les marie ? Thomas Cranmer. Donc tout se passe pour le mieux dans le meilleur des mondes. Il les marie quand même avant que Rome n'ait fait connaître son jugement. Donc c'était un petit peu risqué, puisqu'on ne sait toujours pas si Henri va être excommunié ou pas. Et malgré tout, le fait qu'il soit marié ne va pas suffire pour régler le problème. C'est pas parce qu'ils sont mariés que le mariage entre Henri VIII et Catherine d'Aragon va être forcément annulé. Et c'est Thomas Cromwell qui va trouver la solution, puisqu'il rédige un texte de loi qui s'appelle la loi de restreinte d'appel en avril 1533 et qui permet de se passer totalement de Rome, et puisqu'il rend l'appel de Catherine complètement caduque. Donc en gros, elle n'a plus le droit de faire appel, elle n'a plus le droit de demander d'aide, même si elle le fait, ça ne sera pas pris en compte. Et tout recours, d'autant plus, alors non seulement l'appel en Angleterre, mais tout recours devant un tribunal étranger est maintenant interdit, et Catherine ne peut plus déclencher d'aide hors du pays. Donc elle est complètement bloquée dans sa démarche, et elle n'a encore plus, enfin là, pour aller encore plus loin, elle n'a encore, elle a l'interdiction totale de contester la décision du tribunal qui avait été réuni par Cranmer. Donc elle n'a pas le droit d'aller chercher d'aide à l'extérieur, elle n'a pas le droit de contester les décisions, donc en fait elle n'a aucun droit, si ce n'est d'accepter les décisions. Et le 23 mai de la même année, 1533, Cranmer peut déclarer le mariage, enfin s'octroie le droit de déclarer le mariage du roi, le premier mariage du roi, nul depuis le début, et 5 jours plus tard, il déclare valide son union avec Anne Boleyn. Alors, cette loi, la loi de restreinte d'appel, pose également les principes constitutionnels inédits, et d'une importance capitale, puisque son préambule, qui est inspiré par Cromwell, met en avant la notion d'empire. Alors après, quand on connaît le futur de l'empire, c'est très intéressant. Et je cite le préambule, qui dit « Ce royaume d'Angleterre est un empire gouverné par un seul chef et souverain suprême, ayant la dignité et le statut royal de la couronne impériale du dit royaume. » Donc là, il nous dit clairement les choses, il s'agit d'un empire et à la tête duquel on a un souverain suprême. Par conséquent, nul ne peut intervenir dans les affaires politiques, juridiques ou administratives anglaises. Il y a vraiment une séparation claire à partir de ce moment-là. Rome, cependant, conserve, d'après le texte, puisqu'on ce qui n'est pas mentionné, finalement, laisse libre cours à plusieurs choses, on ne parle pas de Rome, et Rome conserve uniquement le droit de juger toutes les opinions hérétiques. Donc ils ont quand même le droit de brûler quelques personnes, sinon ce serait pas drôle. Voilà, mais c'est le seul droit qu'on leur laisse. Donc quand je vous disais que les choses arrivaient très très vite, là on est déjà en 1533, et... Si avant cette loi on avait une séparation entre les ecclésiastiques et les laïcs, on a dorénavant une couronne impériale qui bénéficie d'une autorité sur tous ces sujets, notamment d'une autorité en matière de religion. Le monarque, en gros, va tout contrôler. Il a le droit de tout contrôler et les ecclésiastiques vont perdre leur indépendance. Alors, ils perdent leur indépendance ou de leur indépendance, mais ils sont en théorie mieux intégrés à la société civile, et puis ils peuvent également être mieux intégrés au corps politique. Bon, évidemment, ça c'est en théorie, puisque dans les faits, le clergé se trouve dévalorisé et la loi civile prévaut sur la loi canon. Et elle prévaut de plus en plus sur la loi canon, puisqu'on a un monarque, même si le monarque représente Dieu sur terre, il est tout de même, c'est tout de même un homme qui va tout gérer. Alors, Anne Boleyn est toujours jeune mariée, et elle va être couronnée en grande pompe, le 1er juin 1533, et ce qui est un affront énorme pour Rome, bien sûr, qui n'accepte absolument pas ce coup de force de la part d'Henri et de ses conseillers, et il va sommer, le Saint-Siège somme Henri de se séparer de sa nouvelle femme, sous peine, pour le coup, d'être excommunié. Alors, Henri doit absolument réagir, parce que vous allez me dire, bon, finalement, pourquoi il s'inquiéterait du fait d'être excommunié? C'est important, alors pour lui évidemment, dans sa foi, mais surtout se protéger et protéger les héritiers, les éventuels héritiers qu'il va obtenir avec Anne Boleyn, de sanctions susceptibles de remettre en cause la légitimité de ses enfants, des enfants qu'il pourrait avoir avec Anne. Donc il pense à la succession. Et bon, ils se sont mariés, donc elle est couronnée en juin, elle est couronnée enceinte, puisqu'elle est tombée enceinte, me semble-t-il, en décembre 32, et le 7 septembre 33, Anne va donner naissance à une fille, hein, bien qu'elle lui ait promis un fils, ce sera une fille. Alors évidemment, il est déçu, mais bon, cette fille deviendra la future Élisabeth Ière d'Angleterre. Qui régnera longtemps, puisqu'elle régnera entre 1558 et 1603. Reine vierge, on dit souvent qu'elle n'avait de vierge que le titre, hein, même si elle s'est jamais mariée. Donc, Henri s'inquiète quand même de sa succession, s'inquiète pour ses futurs enfants légitimes, et bon, évidemment, il est déçu de ne pas avoir un garçon, mais... il se dit qu'Anne est encore jeune, elle est encore féconde, elle est pleine de vigueur et que, bon, finalement, elle arrivera à lui donner d'autres enfants. Alors également, elle fait, comme beaucoup de femmes à l'époque, de nombreuses fausses couches, hein, on lui en connaît trois, mais c'est pas grave, les choses avancent et il y croit. À cette époque-là, le Parlement anglais va faire voter une seconde loi sur les annates, hein, vous vous souvenez des annates, pour que les évêques et les supérieurs de monastères soient nommés sans consécration pontificale. Donc là, on va une fois de plus franchir une étape, puisqu'on va une fois encore donner tout ce pouvoir-là à la couronne, c'est-à-dire qu'on s'octroie de plus en plus la part du gâteau et on enlève de plus en plus de pouvoir au Saint-Siège. Alors, finalement, qu'est-ce qui lui reste à ce pauvre pape? Pas grand-chose. Alors, vous savez que le pape est un évêque avant tout, hein, il devient, pour l'Église, qui deviendra l'Église d'Angleterre, le pape n'est que l'évêque de Rome. Ce qui est au passage en accord avec les idées de Luther. Donc vous voyez la progression, hein, on lui enlève la part du gâteau peu à peu. Et là on arrive en 1534, date à laquelle une loi très importante, une loi de succession est votée, en mars, et cette loi promet le trône au fils à venir, à O-A-U ou O-A-U-X, hein, selon s'ils naîtront et survivront, au fils d'Anne, et si elle meurt sans fils, cette loi de succession donnera le trône à Élisabeth, sa fille. Alors, vous me direz que Élisabeth, c'était pas la première fille d'Henri. Hein. Vous vous souvenez qu'il a eu Marie, sa première fille avec Catherine, mais Marie n'est pas mentionnée dans cette loi de succession, sans doute pour ne pas avoir à la déclarer illégitime, parce que c'est pas une fille légitime, hein, finalement, mais le mariage avec Catherine est présenté, je continue, hein, c'est pas grave, vous m'entendez ? Oui, le mariage avec Catherine est présenté comme contraire aux lois de Dieu Tout-Puissant. Donc vous voyez, on est quand même, hein, on marche toujours sur des œufs. Hein, elle est pas, Marie était fille légitime, mais malgré tout, on ne veut pas l'intégrer dans cette loi de succession. Donc il faut toujours mettre les formes. Alors, les universités anglaises qui étaient peuplées quand même de toute cette... tous ces intellectuels, hein, dans lesquels il y avait énormément de bouillonnement intellectuel, ont recruté beaucoup d'ailleurs de tuteurs royaux dans les universités. Les universités anglaises renoncent également aux prérogatives du pape et acceptent Henri, et ça c'est un pas important, comme, je cite, chef suprême de l'Église d'Angleterre, dite Anglicana Ecclesia. Et c'est ce qu'on appelle l'acte de suprématie. Alors, la mainmise sur l'Église est désormais complète. La seule prérogative du pape, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est de nommer, de dénoncer, de juger les hérésies. Le reste est complètement octroyé à Henri, ou tout au moins au monarque, au chef au souverain anglais. Alors, ce qui est intéressant, c'est Après, à la mort d'Henri, c'est Édouard qui va régner. Et après Édouard, alors Édouard sera protestant, et la fille d'Henri, donc Marie, la fille de Catherine d'Aragon, qui était catholique, qui a toujours conservé, qui a toujours été fidèle aux idées de sa mère et à la foi de sa mère, va abroger cet acte de suprématie en 1554. Et sa demi-sœur Élisabeth, puisqu'en fait ils sont tous demi-sœurs, sa demi-sœur Élisabeth, qui elle était protestante, va rétablir cet acte de suprématie lorsqu'elle arrive sur le trône en 1558, alors sous une forme un peu différente, et c'est ce qu'elle va nommer l'acte de suprématie et d'uniformité. Qui va, et c'est là que va se déclencher une véritable persécution religieuse qui va s'en prendre directement au dogme catholique. Donc entre les deux sœurs, il y a toujours cette grande différence, l'une catholique, l'autre protestante. À chaque règne, suffit sa peine, j'allais dire, à chaque règne, on a une promulgation de lois différentes. Alors voilà, alors vous pourrez réviser votre lecture de l'écriture manuscrite de l'époque. Voilà, ça c'est l'acte de suprématie. Alors, je voulais vous en trouver une traduction. Je n'en ai pas trouvé en français. Et très honnêtement, je me voyais mal me frotter à la traduction, puisque ce sont des termes assez techniques et par manque de temps, je ne l'ai pas fait. Donc, j'en suis désolée, mais c'est de toute façon dans cette loi qu'on nomme Henri et tout souverain à suivre chef suprême de l'Église. Donc c'est très très court, hein. Comme vous voyez, c'est très très court. Alors maintenant, Henri est séparé de Rome. Ça fait très divorce, hein, mais en fait c'était le cas. Henri est séparé de Rome et malgré tout, même s'il y a eu cette séparation, la doctrine, sa doctrine reste catholique. Et c'est ça qui est intéressant, parce que malgré l'ampleur de ce bouleversement, Henri, au fond de son cœur, hein, il est toujours resté fidèle défenseur de la foi. Enfin, tout au moins jusqu'à une certaine limite. Et malgré tous ces bouleversements, ce qui est encore plus étonnant, il y a peu d'opposition dans le pays. Hein, on pourrait se dire, si on prend l'exemple des Français, nous en France, on se serait... Alors évidemment, là, c'est de l'ordre de la fiction, mais on aurait pu avoir des soulèvements, des révolutions, et finalement, il y a eu quelques endroits où il y a eu des soulèvements, des désaccords, mais pas rien d'extraordinaire, j'allais dire. Et puisque finalement, les attaques et tous ces changements, toute cette évolution ne visent que le clergé. Et les laïcs ne sont pas réellement, la vie des laïcs n'est pas réellement altérée. La vie de tous les jours, elle ne va pas changer à cause de ça. Si ce n'est, je vous l'expliquerai après, le fait de prêter serment. Il y a peu de résistance au sein du clergé finalement. Il y a juste une petite minorité qui va résister. Alors, on n'envisage pas, Henri n'envisage toujours pas de modification du dogme, hein, lui, il est toujours fidèle à la doctrine catholique, il n'envisage pas de changer la liturgie non plus, mais on le sait, le schisme entre Henri et Rome a ouvert des portes. Alors, très certainement malgré Henri, hein, aux idées nouvelles, et a permis à ces idées nouvelles, donc les idées de la réforme, d'entrer et de s'instaurer en Angleterre. Donc le protestantisme, avec tous ces bouleversements, va pouvoir entrer et s'installer en Angleterre. Alors, entre 1534 et 1547, date de la mort d'Henri, on entre dans une période, je dirais, de catholicisme sans pape. Puisque finalement, tout ce qui est d'un point de vue hiérarchie a évolué, puisque Henri se retrouve à la tête chef suprême de l'Église d'Angleterre, mais au niveau de la doctrine, peu de choses ont évolué finalement. Et donc cette période va durer entre 34 et 47. Alors en pratique, voilà comment les choses s'organisent. En 1536, notre ami Cranmer, voilà, qui est là, va rédiger un texte qu'il appelle les 10 articles, où il annonce clairement la ligne de pensée de l'Église d'Angleterre, parce que c'est pas tout d'établir un acte de suprématie, il va falloir quand même établir les règles. Ensuite, une définition plus claire des compétences spirituelles arrive et apparaît en 1537, quand les évêques et les théologiens vont rédiger ce qu'on appelle une confession de foi, qui s'intitule « The Institution of a Christian Man », en gros l'institution de l'homme chrétien, où en gros on va expliquer ce qu'est le bon chrétien, hein, ce qu'il doit faire. On appelle ça aussi, ce texte également le livre des évêques, puisqu'il a été rédigé par des évêques. Et dans ce texte, on indique que le clergé a le droit de prêcher, le droit d'enseigner, d'administrer les sacrements, d'absoudre, d'excommunier, mais que le roi obtient le droit d'approuver ou non le choix des ministres du culte, et il obtient le droit de réglementer les rites, les cérémonies, les observances. Donc il a quand même de grande liberté, hein, puisqu'il a le droit de réglementer. En gros, tout ce qui n'est pas expressément dit et ordonné dans la Bible relève du roi. Donc ça donne quand même une certaine latitude, et relève du roi et donc de l'autorité civile, puisque le roi ne fait pas partie du clergé. Alors, Henri va mettre en place des mesures spectaculaires, et je vous parlais tout à l'heure du serment. Il va mettre en place cette mesure, il impose de prêter serment en 1534 à propos de la suprématie. C'est ce qu'on a appelé le serment de suprématie. Donc, les évêques sont tenus de jurer obéissance à Henri et de le reconnaître chef suprême de l'Église d'Angleterre. Les curés reçoivent l'ordre de signer un texte qui dénonce carrément l'autorité du pape. Vous voyez, ça va quand même loin. Hein. Et à partir de 36, tout responsable administratif, politique, religieux ou quiconque qui perçoit un revenu de la couronne doit prêter ce serment et reconnaître Henri chef suprême de l'Église. Alors, évidemment, vous allez me dire, oui, on pouvait signer, prêter serment, et puis au fond, on croise les doigts, on n'y croit pas. Mais à l'époque, ce n'est pas vraiment la façon dont on réagit. Quand on refuse de prêter serment, on s'expose à la prison, au mieux à la prison, un peu, oui, enfin, au mieux à la confiscation de ses biens, un peu moins mieux, en bon français, à la prison, et au pire, à l'exécution, hein, à l'exécution pour trahison. Donc c'était quand même un acte grave. Et proférer des paroles hostiles à un membre de la famille royale ou carrément au roi suffit de toute façon à l'époque pour encourir la peine de mort. Alors ce que je voulais dire, j'ai pas terminé ma phrase, pardon, on pouvait prêter serment sans y croire, pas vraiment, puisque on se dit, et c'est ce que de nombreuses personnes qui vont être brûlées, jugées et brûlées pour hérésie vont faire, préfèrent refuser de prêter serment plutôt que de prêter serment sans y croire, puisque prêter serment sans y croire, c'est s'exposer à ne pas aller au paradis, c'est exposer son âme à de nombreuses souffrances. Donc ils préfèrent mourir en tant qu'hérétiques plutôt qu'exposer leur âme à une errance et à des souffrances pour l'éternité. Voilà. Et à partir de 1535, donc les évêques et les prêtres doivent, alors non seulement prêter serment, mais prononcer des homélies types qu'on leur fournit, que les autorités leur fournissent. Alors, je rappelle que l'homélie, c'est le discours que donne le prêtre pour expliquer sa lecture de l'Évangile. Donc, si on lui fournit une homélie type, c'est-à-dire quelque chose un plan avec les idées qu'il doit suivre, c'est tout sauf sa lecture. Hein. Donc, les choses sont très, très, très réglementées. Et on va choisir les prédicateurs avec soin, tout en leur promettant bien évidemment de les punir sévèrement s'ils ne vont pas dans le sens du souverain. Donc tout le monde est un peu sous pression. Si on ne suit pas les prescriptions de la couronne, en gros, on a peu de chances de survivre. Tout est absolument verrouillé par les autorités. Et événement important, dès 1538, Là, c'est très important puisqu'on va imposer la présence d'une Bible en anglais dans chaque église du royaume. La Bible avait été traduite par plusieurs personnes, mais deux personnes, Coverdale et William Tyndale, et c'est celle-là qu'on va mettre pour l'instant, enfin à cette époque-là dans les églises, la Bible de Tyndale, qu'il avait traduite entre 1525 et 1526. Et on va demander à des laïcs, à des gouverneurs, à des magistrats, à des aristocrates de vérifier le travail du clergé. Et on va leur demander de vérifier que le clergé respecte bien la loi ordonnée par la couronne. Donc c'est l'œil de Moscou avant l'œil de Moscou. Et les élites laïques surveillent dorénavant le clergé. Donc vous voyez le renversement. Hein, avant Henri, c'était l'Église avec tout le pouvoir. Et là, de plus en plus, même carrément complètement, les laïcs ont le pouvoir sur le clergé. Et c'est aussi à cette période-là qu'on commence à critiquer les monastères, qui recèle de richesses considérables et qui, il faut bien l'avouer, intéresse de nombreux laïcs qui se disent « Tiens, si je pouvais récupérer l'endroit, ce serait quand même plutôt pas mal. » Et Cromwell prétexte une corruption au sein des monastères pour proposer une réforme des abbayes et des couvents. Mais tout le monde comprend bien qu'il s'agit d'une opération financière et politique et qui se cache finalement derrière sa prétendue réforme. Hein. Malgré tout, on va quand même aller en ce sens et on procède à une évaluation des biens de l'Église en 1535. Donc on va évaluer, faire la liste de tous les biens qui sont possédés par chaque paroisse. Abbaye, couvent, et on va visiter systématiquement les établissements et bien évidemment contre leur gré s'ils nous décident de ne pas ouvrir les portes. Hein. Donc on va visiter une nouvelle fois les monastères, les couvents, les abbayes en 1538. Alors, ceux qui n'avaient pas été visités, on va vraiment les visiter. Il y a quelque chose d'un peu vicieux puisque on va quelque part les inciter au débordement et à la révolte s'ils refusent d'obtempérer, ce qui permettrait évidemment d'imposer des lois plus strictes et plus facilement. Alors, de nombreuses pressions se multiplient et de nombreux monastères et abbayes acceptent de remettre leurs biens à la couronne et on va voter une loi en mai 1539 et cette loi s'appelle la loi sur la confiscation des biens de l'Église. Et quand je vous parlais de Hampton Court, à l'époque, parce que Cranmer est mort bien plus tôt, mais c'était déjà dans cette même veine, Wolsey est mort bien plus tôt, c'était déjà dans cette veine, il possédait de nombreux manoirs, de nombreuses terres, et Henri, qui était assez intéressé par cet endroit, se dit, tiens, si je le récupérais, donc la chute a précipité Henri, il a pu obtenir ce lieu, et à la fin de son règne, hein, Henri possédait une soixantaine de palais royaux, alors pas forcément des anciens couvents, mais enfin, des dépendances ou des lieux qui pouvaient également avoir appartenu à l'Église. Donc on va récupérer les biens de l'Église à partir de 1539, on va confisquer carrément ces biens et dès lors le pays n'est plus le même puisque l'Église qui possédait en 1530 un tiers des propriétés foncières et qui avait des revenus annuels trois fois supérieurs quand même à ceux du roi, se voit à partir de 1539 amputée de la moitié de ses richesses. Donc c'est énorme. Alors, outre l'aspect financier, on peut y voir évidemment un aspect symbolique, hein, puisque la couronne élimine les derniers nids de résistance papiste, hein, qu'on les appelait les papistes à l'époque, et beaucoup de moines se retrouvent à la rue, puisque ces pauvres gens, c'est pas tout de leur prendre leurs biens, mais qu'est-ce qu'on va faire d'eux ? Ils se retrouvent à la rue, certains vont changer de vie, certains abandonnent les ordres, d'autres deviennent curés de campagne, ou enfin curés de paroisse, et ça c'est pour les hommes, mais les femmes... Qu'est-ce qu'elles font ? Elles étaient anciennes nonnes et elles vont souffrir de plus en plus de la dissolution des monastères, la dissolution de leurs couvents, car elles n'ont pas le choix si ce n'est de retourner dans leur famille ou de se marier. Alors évidemment, se marier, ça impliquait une dot, donc ça impliquait beaucoup de choses hein, quand on était une femme. Alors, Et par ailleurs, l'enseignement, l'aide aux pauvres reçoivent un coup sévère puisqu'ils étaient offerts par le clergé. Et à cette époque-là, le nombre, évidemment, d'ordinations chute, puisqu'il ne fait pas bon être prêtre. On n'a pas vraiment envie de rentrer dans les ordres. Bref, c'est un gros coup pour le clergé et dans le pays en général. Alors, je terminerai sur les réactions de la population. Alors, je disais qu'il y a eu peu de soulèvements, mais enfin, il y a quand même eu des gens qui se sont offusqués, tout au moins... soulever, ce serait pas vraiment le mot, mais qui ont dit non. Alors, évidemment, on essaie à tout prix d'étouffer les réactions hostiles. On use et on abuse des injonctions et proclamations royales pour lutter contre les insoumis, hein, on leur fait peur. Le bon sujet, c'est celui qui obéit. Et l'immense majorité, finalement, accepte la réforme, ce qu'on appelle la réforme henricienne, la réforme d'Henri, qui a été formée par les pressions. Et dès la fin, je reviens un petit peu en 1534, hein, avec l'acte de suprématie, dès la fin de 1534, presque toute la population masculine, hein, parce que évidemment les femmes n'avaient pas le droit de vote à l'époque, presque toute la population masculine va prêter serment. Et malgré tout, il y a quelques personnes qui ont montré leur désaccord et qui l'ont montré souvent au péril de leur vie. Alors, j'évoquerai rapidement le plus connu, Thomas More, le cas de Thomas More qui, lui, a refusé de prêter serment, le serment qui donne l'autorité suprême au roi, hein, parce qu'il refuse le divorce. Et alors qu'il est chancelier, il va démissionner. Il démissionne en 1532 et il est resté toute sa vie inébranlable. Il va persister, signer, il est contre le divorce. Il sera emprisonné, il sera exécuté comme traître le 6 juillet 1536 sans avoir jamais prononcé la moindre parole hostile au roi. Ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir été contre le divorce. Alors, il ne peut, en son âme et conscience, Thomas More, se résoudre à adhérer à l'abandon de la loi canon, et il estime que le Parlement est absolument incompétent en la matière, en matière de spiritualité. Hein. Eux, ils s'occupent des lois, et c'est tout. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, mentir, prêter serment et mentir aurait signifié mettre en danger son âme pour l'éternité, et ça il ne peut vraiment pas s'y résoudre. Alors il préfère mourir, et ce qui est intéressant c'est qu'il sera réhabilité des années plus tard, il a même été béatifié par l'église catholique romaine en 1886, donc assez longtemps après, il a été canonisé, et les catholiques l'appellent Saint Thomas More. Il a été canonisé en 1935. Alors, Thomas More, c'est le plus connu, mais au total, près d'une soixantaine de personnes périssent pour ne pas avoir accepté la suprématie religieuse du souverain, ce qui est finalement assez peu, hein, dans un pays comme l'Angleterre. Alors, il y a également des soulèvements ici et là, et le plus connu, c'est ce qu'on a appelé le pèlerinage de grâce en 1536, qui menace assez sérieusement pour le coup la couronne. Et c'est donc tout ça s'est passé entre octobre 1536 et mars 1537, et des dizaines de milliers de personnes se soulèvent dans le nord du pays. Et des membres du clergé sont à l'origine de ce soulèvement, prétextant la dissolution des monastères. En fait, la dissolution agit comme détonateur, mais les raisons sont autant politiques qu'économiques. Ils souhaitent, les membres de pèlerinage de grâce souhaitent revenir à l'Angleterre d'avant 1529, hein, une église fidèle et en accord avec le Saint-Siège, et redonner à Marie Tudor la première place dans l'ordre de succession. Alors, rébellion ou pèlerinage, hein, on parlera plutôt de pèlerinage armé, puisque leur emblème représente les cinq plaies du Christ, et se définir comme rébellion aurait suffi à l'époque pour les accuser de trahison envers la couronne. Donc c'est pour ça qu'ils se sont octroyés le nom de pèlerinage, de pèlerin. Et c'est un mouvement assez complexe dont je n'entrerai pas dans les détails, mais il prend fin dès décembre 1536 et il a donné lieu à une sévère répression. Alors, d'un point de vue doctrinal, en fait, comme j'ai dit, on n'observe aucune différence entre le catholicisme romain et le catholicisme henricien jusqu'en 1535, si ce n'est la suprématie religieuse du souverain. Et on commence à partir de 35. Cromwell et Cranmer ne parlent pas d'église de Rome, mais de l'église du Christ, ce qui laisse entrevoir les changements. Donc, je vais parler très rapidement de la situation doctrinale, parce que je vois que le temps passe propre à l'église d'Angleterre. Donc, je reviens en 1534, l'acte de suprématie, la situation doctrinale se radicalise entre 34 et 38. En 36, donc, les 10 articles sont publiés par Cromwell, et seuls 3 sacrements sont conservés, le baptême, l'eucharistie et la pénitence, dont la confession, car finalement ils sont les seuls, selon lui, enfin ils sont, selon de nombreux théologiens, nécessaires au salut de l'âme. Cromwell va dénoncer les pèlerinages, les images, qui selon lui relèvent de l'idolâtrie et de la superstition. Donc évidemment, hein, on manipule des choses très très délicates, hein. Est-ce que c'est un symbole, est-ce que c'est une présence, ce sont des choses très 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 délicates. Et le but des 10 articles, en fait, est d'établir la tranquillité et l'unité chrétienne. Et en 1537, on a, je vous en ai parlé tout à l'heure, le livre des évêques, qui est écrit par quand même 46 évêques, dont Cranmer, et qui est publié, mais Henri refuse de cautionner le texte, puisque d'après lui, il comporte des accents bien trop protestants à son goût. On y parle de justification par la foi, donc propre aux protestants, c'est-à-dire que on n'a pas besoin de faire de bonnes œuvres pour aller au paradis, il suffit de croire et on ira au paradis. Ce texte parle aussi des élus de Dieu, tout ce qui va à terme, enfin toutes ces idées qui sont quand même propres aux idées protestantes. Et on recommande à l'époque, en 1537, de placer dans les églises la Bible de Matthieu, qui avait été traduite par Tyndale, sous l'influence de Luther. Donc vous voyez bien que peu à peu, les idées deviennent de plus en plus radicales. Et d'ailleurs, dans cette Bible, plusieurs rubriques s'attaquent au pèlerinage, au cierge, au culte des images, au saint. Tout ça, c'est de l'idolâtrie, c'est de la superstition, on n'en veut pas. Et entre 1538 et 1547, on observe une phase de réaction, en fait, de la part d'Henri VIII. Et il estime que tout va bien trop vite pour lui, hein. Lui, il est catholique dans son cœur, il n'a pas envie d'aller de croire à autre chose. Et il va imposer quand même un ralentissement des innovations en matière doctrinale. Donc même si ses conseillers l'encouragent à aller bien plus loin, lui, il ralentit tout le monde. Et en juin 1539, le Parlement va voter une loi qui s'intitule « Une loi pour abolir la diversité d'opinions » où il réaffirme, et là on rentre dans les choses très techniques, le principe de la transsubstantiation. Alors la transsubstantiation, c'est la présence réelle du corps et du sang du Christ dans les espèces, c'est-à-dire dans le pain et le vin. Est-ce que quand le prêtre consacre, bénit le pain et le vin, est-ce qu'il y a présence réelle, est-ce que il s'agit bien du corps et du sang du Christ, ou est-ce que c'est juste un symbole? C'est ça la transsubstantiation. Le Parlement vote cette loi qui réaffirme le fait qu'il y a vraiment une présence réelle du corps et du sang du Christ dans le pain et le vin qu'on propose à la messe. Il va réaffirmer aussi la valeur de la messe privée, la valeur de la confession, ce qu'on appelle la confession auriculaire, et il rejette la communion, ce qu'on appelle sous les deux espèces, c'est-à-dire le pain et le vin pour les fidèles, c'est-à-dire seul le prêtre a le droit de boire, et le vin de messe, c'est-à-dire le sang du Christ, et les fidèles, eux, n'ont droit qu'à l'hostie, au pain, au corps, et ils rejettent également le mariage des prêtres. Alors, on observe un retour aux idées plus traditionnelles de Cromwell, pardon, de traditionnel, et Cromwell tombe en disgrâce lui aussi, avant d'être exécuté pour hérésie et pour trahison en 1540. Et en 1543, dans le cadre de ce retour aux valeurs traditionnelles, parce qu'à la fin de son règne, Henri VIII craignait beaucoup l'hérésie et les interprétations de la Bible qui pourraient mener à des routes, alors il interdit la lecture de la Bible aux classes sociales inférieures, et aux femmes, hein. Seules les personnes de haut rang y ont accès. Les reines, par exemple, les aristocrates de haut rang peuvent lire la Bible uniquement dans le cadre de la sphère privée. Et de préférence, lecture silencieuse. Et sa dernière confession de foi s'appelle le livre du roi. Alors, on a eu le livre des évêques, maintenant on a le livre du roi, qui s'appelle ainsi parce qu'il en a rédigé la préface. Et en gros, c'est le guide, une fois de plus, du bon chrétien. J'allais dire le guide du routard du bon chrétien, mais bon, voilà. Et il s'agit en réalité d'une version revisitée du livre des évêques, hein, qui avait été écrit par les évêques. Donc, il préfère laisser sa marque en rédigeant la préface, et ce titre devient connu, pardon, ce livre devient connu sous le titre de Livre du Roi. Donc il devient plus conservateur puisque ce texte défend la transsubstantiation, la présence donc du corps et du sang du Christ dans les espèces, et la transsubstantiation, c'est quelque chose de très cher aux catholiques, hein. Il encourage également la confession. En revanche, et là c'est là qu'on voit quelques accents plutôt protestants, ce texte interdit l'utilisation d'images et va suivre le commandement divin préconisé par l'Exode, je cite, « Tu ne feras point d'images taillées, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux. » Donc l'adoration des images, des idoles, ne serait que superstition. Alors, pour terminer, la toute fin du règne est marquée par l'installation progressive, hein, mais sûre, des protestants à la cour, puisque sous l'influence de sa dernière femme, vous vous souvenez de sa dernière femme, Catherine Parr, hein, ma préférée, la multi-récidiviste du mariage, elle a beaucoup influencé Henri VIII, notamment du point de vue de l'éducation de ses enfants. Elle a essayé de les rapprocher et elle a eu des influences sur le choix, tout au moins, des tuteurs d'Édouard, et comme par hasard, elle était plutôt proche des idées protestantes, donc elle a choisi des tuteurs plutôt proches des idées protestantes également. Et Henri VIII s'éteint le 27 janvier 1547, et c'est Édouard qui est couronné Édouard VI d'Angleterre, premier enfant d'Henri à monter sur le trône, et surtout premier souverain protestant anglais qui est couronné le 27 février 1547 à Westminster, en grande pompe. Bon, il mourra très jeune, hein, il avait lui aussi une santé fragile, et c'est ce que je vous propose de découvrir la semaine prochaine, puisque je vous présenterai le court règne d'Édouard VI, et de ses deux demi-sœurs, Marie et Élisabeth. Voilà. Je vous remercie.